C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Pierre Mogoui.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Algou.
Bonjour.
Tanguy Pastureau sera avec nous à 12h10. Bonjour. Et notre invité est Eric Emmanuel Schmitt. Pour un recueil de nouvelles, puisque c'est le genre auquel vous vous êtes prêté. Merci Eric Emmanuel de trouver le temps de venir à notre micro. On dit maintenant Eric Emmanuel de l'Académie Goncourt, s'il vous plaît, pour La Vengeance du Pardon, publié chez Albin Michel, qui est un bonheur à lire. Un bonheur parce que déjà, c'est extrêmement bien écrit, on se laisse totalement embarquer,
c'est
emporter
fluide.
Par votre plume, exactement.
Vous m'avez dit que c'est beaucoup mieux que le dernier.
Et puis,
c'est ce que Nagui m'a dit, il était ravi, franchement.
Et puis les histoires en elles-mêmes, ces quatre nouvelles que l'on pourrait entre guillemets pitcher très rapidement en disant qu'il y en a une où c'est une histoire d'amour avec deux sœurs jumelles qui se trouvent au cœur de cette histoire d'amour, et puis évidemment tout l'amour qu'il y a dans leur jumélité, une histoire de un peu de faillite financière mais aussi de transmission paternelle dans la deuxième, La Vengeance du Pardon étant la troisième histoire qui est totalement dingue. C'est-à-dire une maman qui voit sa fille assassinée par un serial killer et qui va rendre visite, et même déménager pour rendre visite à l'assassin de sa fille.
Qui entretient avec lui une relation pour lui redonner de l'humanité.
Voilà. Et le dernier qui est un...
Mais c'est ambigu quand même.
On va revenir dessus. Et un vieux monsieur qui a une petite voisine de 8 ans qui vient lui dire « Dessine-moi un avion », clin d'œil évidemment à Saint-Exupéry. Et pour cause, ce monsieur a été militaire, aviateur justement, et dans l'armée allemande. Et il est amoureux aussi. Il se reconnaît un peu dans la plume de Saint-Exupéry. Et il y a beaucoup de questions qui viennent se poser. Et dans son rapport avec sa fille, avec cette petite fille, pardon, et avec son propre fils, et dans sa place dans l'histoire, on va dire, de Saint-Exupéry. Elles ont toutes un point commun. C'est pas spécialement la vengeance, c'est pas spécialement le pardon, c'est l'humanité, quatre histoires.
Moi, ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est rentrer dans le labyrinthe, pas pour en sortir, mais pour explorer tous les coins du labyrinthe humain. Moi, je suis passionné par les humains, je suis passionné par la complexité humaine. Par exemple, le pardon, ça a l'air d'être une chose évidente, enfin pas évidente à donner, hein, mais on a l'impression que le pardon, c'est totalement altruiste. Or, en écrivant ces histoires, je me rendais compte qu'il y a une grande part d'égoïsme aussi dans le pardon. On pardonne pour soi, pour avoir la paix, on fait la paix pour soi, pas pour l'autre. Je me rendais compte qu'il est difficile d'être pardonné. Vivre sous le regard du pardon, c'est vivre doublement dans la faute.
Alors on parlera du pardon un peu plus, avec un professeur de philosophie morale, Laurent Jaffroux, qui sera avec nous tout à l'heure. Mais c'est surtout des histoires, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire, Leïla, t'es comme on avait envie d'être à la page suivante.
J'ai envie d'autres nouvelles, d'ailleurs, ouais, j'aimerais passer une commande, Eric. si vous pouviez, pour le mois prochain, par exemple, me réserver encore 4 nouvelles de la sorte. Parce que ce qui est intéressant, c'est que non seulement, en effet, vous parvenez à sonder l'âme humaine de façon assez formidable. Je pense notamment à la première nouvelle, puisqu'il est question de deux femmes, deux sœurs. On a parlé de cette gémellité qui peut poser problème et qui en pose. Comment vous parvenez à décrire les rapports d'amour mélangés à la rivalité, à la jalousie, de l'absence d'unicité en fait aussi, de comparaison permanente entre deux êtres qui sont pourtant distincts mais qui ne font qu'un d'une certaine manière. Et ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que j'avais l'impression d'être dans une nouvelle du 19e siècle. On aurait très bien pu transposer ça, ça aurait pu être du Balzac. Vraiment. Et comment vous parvenez à nous raconter nos vices ? Parce que finalement, à travers les vices de ces deux jeunes filles, c'est les nôtres dont il est question.
On parle des tiens, écoute.
Mais non,
je
n'ai
pas senti concerné.
Mais pas du tout.
Mais si, avec une maladie, c'est
vierge,
ça.
On connaît en soi toutes ces couleurs-là.
Ouais.
Même un optimiste sait ce qu'est le pessimisme, parce qu'il a été, pessimiste à 20% de son temps. On connaît tout. On sait qu'au revers de l'amour, il y a la haine, puisque c'est la passion. on sait que même dans une admiration, il peut y avoir de la jalousie. C'est intéressant, c'est de voir justement le chatoiement des, du tissu, des sentiments.
Il y a toujours le verre à demi-plein, à demi-vide. Il y a toujours ouais. le yin et le yang, le blanc et le noir.
Oui, parce que nous sommes complexes. Mais c'est vrai que ça m'a passionné, moi, l'histoire des jumelles. Les sœurs Barbarin, elles s'appellent.
Ouais. Lily et Moïsette.
Voilà, parce que c'est deux sœurs qui sont complètement physiquement pareilles, mais... on essaye d'introduire la différence entre elles deux. Et à l'anniversaire de leurs 4 ans, on leur offre des cadeaux différents. Et là commence la tragédie. Il y en a une qui s'estime lésée et qui va toujours penser que sa sœur lui prend l'affection des parents, la lumière, les bons cadeaux, etc. Et donc, elle va devenir vengeresse. Hein, parce que comme elle se sent une victime, elle devient un bourreau. C'est souvent le cas.
Mais elle est touchante parce qu'elle victime, parce qu'elle n'agit pas comme ça juste pour faire le mal. Elle agit comme ça pour prendre sa propre défense. Donc, en plus, on arrive à comprendre les motivations de la méchante. Je trouve, c'est ce qui m'a fasciné.
Et malgré les horreurs qu'elle va
commettre
sur sa sœur, elle va justement la pardonner parce qu'elle l'aime.
Oui, plus la grande sœur pardonne, plus la cadette la hait.
Ouais.
C'est un amour qui provoque exactement l'inverse. Et ça montre justement la difficulté de vivre avec quelqu'un qui vous pardonne. Parce qu'étant pardonnée, elle se rend compte de la sublimité de sa sœur. Et du coup, sa sœur est de nouveau... plus grande qu'elle, meilleure qu'elle.
Prénom extraordinaire, biblique.
Pardon,
Moïsette. Moïsette. C'est pour
parce
ça.
Parce qu'elle devait s'appeler. Attendait un garçon qui devait s'appeler Moïse. Voilà. Donc.
C'est pour ça que ça commence mal. Elle a un prénom par défaut.
Et oui, déjà.
Voilà. Déjà les parents.
Elle est déjà là par défaut. Comment vous est venue l'idée de ce concept, 4 nouvelles et pourquoi pas un roman, des histoires qui ont pas spécialement de points communs entre elles, si ce n'est encore une fois la nature humaine.
Nagui, il n'y a pas de roman.
C'est un fait divers.
Il n'y a pas de roman à chute.
Lu quelque chose.
Non, mais il n'y a pas de roman à chute alors qu'il y a des nouvelles à chute. Un des grands bonheurs de lire des nouvelles, c'est tout d'un coup à la dernière page de découvrir quelque chose qui fait reconsidérer tout ce qu'on a lu avant en se disant « Ah d'accord, j'avais pas compris ». Donc ça, on peut pas le faire sur un roman. On peut le faire que dans ce genre-là. Et ce que j'aime, c'est effectivement faire des livres de nouvelles comme au fond on écrit un roman, c'est-à-dire 4 histoires qui sont indépendantes mais qui s'éclairent les unes les autres parce qu'elles traitent le même thème. C'est comme si le pardon était un espèce de diamant noir que j'avais mis au centre et j'examine les facettes.
Une petite précision quantitative, c'est que vos nouvelles ont la taille de certains romans de certains auteurs d'aujourd'hui. Il y a marqué roman sur le bouquin, ça fait à peine 100 pages. Vos nouvelles, il y en a 2 ou 3 qui font pratiquement 100 pages.
Oui, tout à fait.
Donc c'est pas non plus des textes expédiés, si j'ose dire.
Ça, c'était l'opinion d'Albert Algou. Ce que j'aimerais, c'est avoir maintenant l'opinion de Jean-Jacques Lang. Jean-Jacques Lang, avez-vous compris pourquoi nous avons invité Eric Emmanuel ?
Salut Nagui, salut les coms et les meufs de la BO. Juste une précision pour vos auditeurs qui penseraient que je procède à une imitation approximative de Jack Lang. Je tiens à dire que je ne suis pas Jack Lang, mais son cousin issu de Germain, Jean-Jacques Lang. Toutefois, comme mon éminent cousin, je suis profondément épris de culture et j'apprécie, je kiffe grave Eric Emmanuel Schmitt, auteur de ce recueil au titre d'une subtilité ô combien paradoxale, La vengeance du pardon. Ça, c'est de la balle. Éric Emmanuel Schmitt, nouvelliste donc, mais aussi académicien Goncourt, agrégé de philosophie, romancier à succès, essayiste à succès, dramaturge à succès, cinéaste à succès, scénariste à succès, librettiste à succès, épris de mysticisme à succès, comme le christianisme, le judaïsme, le soufisme, le bouddhisme, le confucianisme, l'athlétisme, il l'a commenté, le fétichisme, le nudisme, passion, qui nourrissent passionnément une vie et une œuvre passionnante, dont Nagui me disait tout à l'heure. Vous savez, Jean-Jacques, j'ai jamais lu un seul bouquin d'Eric Emmanuel Smith. Comme Paul et Costa, moi c'est Thierry Mugler. J'ai pas vu une seule de ses pièces, mais je m'en tape. Car il a la tchatche, le bagou. Avec lui, comme invité, je n'ai pas besoin de l'oreillette dans laquelle d'habitude, JNB, notre rédac chef, bafouille mes questions depuis son bec de lièvre. Voilà ce que m'a dit Nagui.
Tout est presque vrai.
Un dernier mot qui n'a rien à voir, je suis observateur, qui n'a rien à voir avec ce qui précède, si ce n'est le nudisme. Comme mon cousin Jack, tout ce qui a trait à la teuf me touche. C'est pas une contre-vérité. Vous pouvez vérifier. Il y a juste une semaine pile poil, c'est le cas de le dire, dans le bois de Vincennes, était inaugurée une zone naturiste où les Parisiens, tels les éléphants du parc de Thoiry, peuvent désormais se balader la trompinette au vent et les doudounes à l'air. Or, mon cher Nagui, depuis une semaine, dans votre bande originale, pas un mot sur cet événement majeur qui contribue à donner une autre image de la nudité. Pas un invité pour en parler, à moins qu'Éric Emmanuel Schmitt, dont le nudisme capillaire est bien connu, ne veuille pas commenter
cette actu. On n'avait dit pas les affaires, on n'en avait pas ça.
Alors, pour vous rattraper, comme je sais que vous allez célébrer bientôt les 25 ans de Taratata, oui, qui sera comme une autre fête de la musique, inventée par mon génial cousin, je vous invite, Nagui, le public et tous vos invités, fêtez ça à poil, j'apporterai mon canon à confettis.
Bonne émission. Merci, Alvaro, canon à confettis.
Nagui, la bande originale.
Je veux pas le voir celui-là, je veux pas le voir. Éric, non, je dis je veux pas le voir. Éric Emmanuel Schmitt signe
avec
donc
moi
ce nouveau roman.
Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit le crâne du chauve est plus proche de Dieu.
C'est pour ça qu'elle a ton son d'ailleurs. Bah, voilà.
La vengeance du pardon chez Albin Michel. Évidemment, mettre formule d'oxymore, mettre ces deux termes qui ne vont pas normalement ensemble. Oui. C'est comme un soleil froid ou enfin bon, on va pas
noir,
redéfinir.
Obscur,
voilà, ça va pas redéfinir l'oxymore. Deux termes totalement opposés. Vengeance et pardon ne sont pas faits pour aller ensemble.
Mais non. Et on a tous rencontrer ça dans notre vie, c'est-à-dire quand on nous blesse ou quand on nous agresse, on a deux solutions en face de nous, la vengeance ou le pardon. Est-ce qu'on se laisse habiter par la haine et est-ce qu'on va jusqu'à
mais certains de vous
et l'indifférence
supprimer le mal. Le mépris, ouais.
Il y a aussi l'indifférence, ouais,
le mépris.
Oui. Je dirais même qu'il y a le pardon par le mépris. Une forme de choses comme ça. Autrement, on a le pardon, c'est-à-dire voilà, vouloir la paix en soi et la
oui,
paix
mais
avec
se
l'autre.
Servir d'un pardon pour se venger.
Bah oui,
mais le pardon peut être vicieux parce que ça empêche à l'autre d'avoir toute prise sur soi.
Ce qui est formidable dans ces nouvelles-là.
C'est fort ce que tu dis parce que tu n'as pas lu le livre et c'est exactement. c'est exactement
Nagui, vous l'avez lu et vous l'avez compris, c'est encore plus fort.
Ouais, c'est exactement ce qui se passe dans La vengeance du pardon. Cette dame.
C'est inspiré d'un fait réel. C'est extraordinaire, je tiens à le préciser parce que je trouve toujours la vie est meilleure romancière que tous les écrivains. Il y a 20 ans, j'avais rencontré l'avocat d'un serial killer dont je dirais pas le nom mais qui avait défrayé la chronique. Et après un procès forcément décevant pour les parents des victimes, parce qu'il n'avait montré aucune empathie, comme toujours ces êtres-là. Il n'avait manifesté aucun regret, aucun remords. Il avait considéré tout ça avec une indifférence. Et comme disait Proust, l'indifférence, c'est la pire des violences. Mm-hmm. Donc après avoir fait vivre...
Comme forme de vengeance.
Ouais, après avoir fait vivre un deuxième martyr, je dirais, aux parents, il est parti en prison à perpétuité. Et une mère de victimes, à la grande surprise et au grand choc des autres parents, a décidé d'aller le voir en prison et de nouer une relation avec lui. Et l'avocat m'avait dit, pourquoi fait-elle ça? Alors moi je lui réponds, est-ce que 20 ans plus tard,
est-ce que
en écrivant comme... La vengeance
est-ce
du pardon.
Alors est-ce que c'était comme, à votre avis, comme dans votre roman, c'est-à-dire une volonté de créer un lien, de l'humaniser
pour qu'il ressente
la
peine.
Pour qu'il se rende compte de la douleur qu'il a mal qu'il a fait.
Je crois que ce qu'elle ne supportait pas, enfin, ce que mon héroïne ne supporte pas, c'est que l'autre soit absolument indifférent à l'acte qu'il a fait et ne soit habité par aucune
douleur. C'est un killer.
Elle veut
même qu'il dise le nom de la victime parce que c'est la quatrième, c'est la cinquième.
Et en fait, elle va essayer de trouver le moment où cet être humain est devenu inhumain. Elle va chercher dans son histoire ce moment-là pour le ramener peut-être à avancement. On fait la même chose, vous savez, quand on essaye de déradicaliser des terroristes. Chercher le moment où
la bascule,
voilà. Et nous amenons vers ce moment-là. Elle provoque quelque chose de très troublant, enfin pour moi qui ai écrit, mais je pense pour le lecteur aussi, c'est-à-dire on va tout d'un coup comprendre de l'intérieur aussi comment cet assassin a construit sa personnalité et a construit sa vie. Donc on va dans des zones assez troublantes.
Enfin, de tous les héros de vos nouvelles, il y en a pas beaucoup auxquels on aimerait totalement s'identifier parce que soit ils ont énormément souffert, soit ils vont finalement être extrêmement violents. Vous se sentiriez proche de qui? De William Golden?
Ben, en fait,
de l'aviateur.
Moi, je crois que je suis devenu écrivain pour pas choisir ma personnalité, pour en avoir mis.
Le plus proche. Le plus proche.
Le plus proche. Moi, je serais plus proche de l'aviateur Werner von Breslau.
Parce que Saint-Exupéry est très présent. D'ailleurs, il est dans deux nouvelles. Vous avez.
Vous l'avez vu dans une.
Il est pas dans Madame Butterfly aussi.
Non. Mais bon, la philosophie qui est défendue, Mademoiselle Butterfly. Non, il est dans la dernière nouvelle, mais
il est très présent dans la dernière nouvelle, omniprésent. Mais vous avez une passion pour
Saint-Ex. Ouais, bien sûr. D'abord, je suis lyonnais, donc j'ai vécu dans la mythologie de Saint-Ex, et je crois que j'ai aimé la littérature à partir de 10-11 ans parce que j'ai lu Le Petit Prince, que j'ai relu toute ma vie.
Vous citez Vol de nuit aussi.
Ouais, mais c'est un livre profond, vous savez, Le Petit Prince. Faut vraiment être un demi-intellectuel pour dire du mal du Petit Prince. Non, mais je veux dire, moi je suis agrégé docteur en philo, je peux vous assurer, je peux vous faire un grand cours magistral de plusieurs heures sur Le Petit Prince, sur la philosophie du Petit Prince. Faut pas traiter ça de façon méprisante. En plus, dans ce mépris qu'il y a pour Saint-Exupéry, il y a le mépris.
Mais attendez, qui a du mépris pour Saint-Exupéry?
Les intellectuels, le nombre de gens que je rencontre qui disent non, c'est pas un grand livre. Non, c'est un des plus grands livres du XXe siècle.
Le Petit Prince, c'est un élément fondateur dans l'éducation d'un enfant.
C'est-à-dire
que, bah oui, aussi.
Et puis, il y a cette chose magnifique que va connaître, moi, mon personnage Werner avec la petite fille Daphné, qui a 6 ans et qui passe le mur du jardin.
Elle a 8 ans.
8 ans.
8 ans, s'il vous plaît.
Ouais. Ben, j'ai hésité longtemps.
Pourriez-vous demander à votre co-auteur, quand même, de vous donner des infos, Eric Emmanuel.
Et elle l'apprivoise exactement comme le...
Le renard.
C'est moi le nègre d'Éric Emmanuel Schmitt.
Elle l'apprivoise comme le renard.
Oui, exactement. Mm-hmm. Parce que ce qui rend un être unique, c'est le temps qu'on passe avec lui. Ouais. Et ça, c'est une merveilleuse leçon.
Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que Le Petit Prince demande des degrés de lecture, de compréhension, parce que c'est pas une œuvre qui se donne comme ça, et c'est ce qui est intéressant. Et ce qui est intéressant dans La Vengeance du Pardon, votre recueil de nouvelles, c'est que, et moi, c'est ce qui me plaît dans les nouvelles à chute aussi, c'est qu'il faut être en coopération active avec l'auteur, en tout cas le narrateur, parce que on se doute bien qu'il va semer ici et là des éléments, des indices, que rien n'est vraiment fait au hasard, et que si on veut trouver la fin en même temps que lui, être étonné, se laisser étonner, mais tout en se disant tiens, peut-être que j'étais sur la bonne piste. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que je ne suis pas qu'une lectrice, je lis, mais j'ai dialogué avec vous, Éric Emmanuel Schmitt, en tout cas avec le narrateur de chacune des nouvelles, parce que l'auteur et le narrateur n'est pas la même personne, mais je me suis dit je suis en dialogue, et je ne suis pas seule. Lire, c'est pas être seule dans son canapé avec un bouquin.
Pas du tout reposant, les livres d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est un boulot.
Ça nous met aussi face à nos vices et à nos abîmes, en se disant comment j'agirais dans telle ou telle situation aussi, par rapport à mes enfants, par rapport à mes amours.
Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et j'ai vu que dans ma vie, je pardonne très facilement à quelqu'un qui me fait du mal. Enfin, très facilement. Je pardonne toujours à quelqu'un qui me fait du mal, parce que quelque part, je me sens les épaules solides et j'ai envie d'avancer dans la paix et la sérénité. Par contre, je suis incapable de pardonner à quelqu'un qui fait du mal à mes proches. Parce que tout d'un coup, ça touche l'émotionnel. Je sais que je pourrais tuer si on touchait à mes proches. J'ai peur que ça arrive un jour, d'abord qu'on fasse du mal à mes proches et qu'ensuite, moi, en retour, je sois violent aussi. Parce que là, c'est tellement lié à l'émotionnel que la raison passerait par-dessus. Parce que le pardon, c'est quand même quelque chose que veut l'esprit. D'ailleurs, on remarque dans la vie courante, quand on pardonne, il y a deux moments. Il y a le pardon volontaire, on décide de pardonner, mais on n'a pas forcément en soi encore le pardon émotionnel. Ouais. Et il est au bout du chemin. Et parfois, on met des semaines, des mois, des années.
On peut exprimer un pardon sans forcément le ressentir dans l'immédiat.
Mais c'est en le voulant qu'on crée le lit où sera possible le pardon émotionnel.
Moi, il y a 3 ans, je me suis dit, je vais aimer Nagui. Ça arrive pas. Je veux, mais ça arrive pas.
On a un thérapie de groupe par rapport à ça. On essaie.
Je vais vraiment te prêter ce livre.
J'arrive pas.
La Vengeance du Pardon, chez Albin Michel. Éric Emmanuel Schmitt est notre invité. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous a dit qu'Éric Emmanuel Schmitt revenait dans notre bande originale.
Oui, et quand je pense à vous, Éric Emmanuel Schmitt, j'entends ceci.
Jolie voix.
Forcément, je pense à vous, je pense à Mozart. Et je vois aussi, dans la façon dont vous parlez de ce compositeur, une forme de thérapie, de guérison, d'accompagnement dans la vie.
Mais je trouve que la musique, c'est plus que de la musique. Les grands musiciens sont pour moi des guides spirituels, des gens qui aident à vivre. Mozart, il me console quand j'ai besoin d'être consolé. Il me donne de l'énergie quand j'en manque. C'est un maître spirituel, en fait. Et en plus, moi, carrément, dans ma propre vie...
Mais vous en sauvez la vie, vous dites.
Oui, quand j'avais 15 ans, j'étais sur cette dépression qu'on a souvent à cet âge-là. Entre l'enfance et l'âge adulte, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Et fort heureusement, un jour, un professeur a emmené quelques élèves à l'Opéra de Lyon où j'ai vu Les Noces de Figaro. Et tout d'un coup, en entendant une femme chanter l'air de la comtesse, j'étais guéri. Je me suis dit, bon, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je vais rester un peu. D'ailleurs, c'est la seule chose qui me...
Parce retiens. Que
j'ai pas une vision... Non, oui. J'ai pas une vision, non. L'amour aussi. Mais j'ai pas... moi, j'ai pas une vision négative de la mort. Je fais confiance. Je me dis, c'est forcément une bonne surprise.
Ça peut attendre un petit peu.
Oui, pas pressé. Oui. Je peux avoir longtemps confiance, si vous voulez.
Pourquoi forcément une bonne surprise, le forcément?
Parce que
Parce que la vie n'est faite que de bonnes surprises?
Mais parce que je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai décidé d'habiter l'ignorance avec confiance plutôt qu'avec angoisse.
Je vais faire pareil.
Généralement, on a peur de l'inconnu.
Oui, c'est ça.
La nature humaine fait qu'on a peur de l'inconnu.
Mais c'est les stoïciens. Il y a les choses contre lesquelles on peut, les choses contre lesquelles on ne peut pas.
Exactement. Et moi, l'inconnu, je ne le remplis pas d'un faux savoir. Mm-hmm. Je ne me dis pas la mort, c'est ceci ou la mort, c'est cela. Je regarde l'inconnu, mais comme je suis porté par un mouvement de confiance dans l'existence, je regarde la mort avec confiance.
Alors, ça me fait penser juste à une chose. C'est Léon Blois, son dernier mot sur son lit de mort, grand écrivain pamphlétaire. Que ressentez-vous? Il a dit une immense curiosité.
Ah. Il est mort juste après.
Ça, c'est la sagesse.
Ouais. Moi, j'adore la phrase de la princesse Palatine sur son lit de mort. Ah oui. Elle a dit « Je me regrette déjà
». Revenons à Mozart. Alors, vous disiez que...
Une journée sans musique, par exemple. Une journée sans Mozart,
c'est
impossible.
C'est une journée perdue.
C'est impossible.
Sans Mozart, oui, parce qu'il y a quand même, à côté, il y a Chopin, il y a Beethoven, il y a Bach, il y a Debussy. Mais non, une journée sans musique, oui, c'est une journée où... Vous savez, je crois que la vie nous disperse, la vie sociale nous donne des coups, nous oblige à réagir, etc. Et le moment musical, c'est le moment où on peut se recentrer et être de nouveau en rapport avec soi. C'est comme si on retournait à la source. À la source émotionnelle, à la source spirituelle qui nous constitue.
Et vous qui avez mille vies dans une, je ne sais pas comment vous faites, mais c'est une carrière de compositeur, une carrière de concertiste.
Ah, j'aurais adoré, oui.
Et
ben, j'aime plus la musique que la musique ne m'aime. C'est-à-dire que, oui, j'ai fait le conservatoire, j'étais bon, hein, j'obtenais mes prix sans problème, mais j'ai découvert que j'avais pas d'imagination musicale. Or, je voulais créer. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis venu sur Terre pour créer. Et donc, quand je faisais de la musique, c'était toujours du simili Debussy, simili Poulenc.
Mais est-ce qu'au début, on fait pas du simili pour ensuite s'envoler? Ben, en fait, c'est pas un temps.
En fait, vous avez parfaitement raison, parce qu'à l'époque, quand j'écrivais, je faisais aussi du simili. Mm-hmm. Mais l'appel était sans doute plus fort.
Et du simili quoi quand vous écriviez?
Alors là, j'ai des espèces de disquettes, je peux vous faire tous les styles que vous voulez.
Ah,
du Chateaubriand, du Proust, du Beckett. D'ailleurs, un jour, je vais faire un spectacle comme ça.
Ça serait génial.
Une variation?
Oui, une variation. Je vais faire une variation sur Othello dans différents styles.
Ah, ça serait formidable.
Oui.
Mais c'est de l'ordre du pastiche ou du à la manière de?
C'est à la manière de,
d'accord.
Ouais,
tout
mais ça vient d'où? D'une étude approfondie?
Une grande schizophrénie,
style,
peut-être.
D'un style qui fait qu'on arrive à en tirer les grandes lignes pour pouvoir reconstituer?
Je peux pas lire une écriture sans d'abord la ressentir sensoriellement, mais aussi l'analyser syntaxiquement. Oui. Grammatiquement, lexicologiquement. Et donc, du coup, c'est facile, quoi.
Il y en a qui ont l'oreille absolue, vous avez la lecture absolue.
J'aimerais bien surtout avoir une lecture plus rapide, parce que là, avec le Goncourt,
lire.
On va en parler de la première sélection Goncourt, et peut-être il y a déjà des favoris, en tout cas, des rumeurs parisiennes qui circulent autour de cette liste.
Il ne dira rien.
Non, c'est pas ça. Je veux juste savoir, moi, si les rumeurs énervent ou titillent, ou éveille la curiosité, justement, dont on parlait tout à l'heure. Éric Emmanuel Schmitt signe en tout cas La Vengeance du Pardon, qu'on vous encourage évidemment à lire, vous l'avez compris, on l'a fortement apprécié, tout comme Guillaume Fouille, ce qui est là.
Guillaume, il l'a mis dans le calice. Bonjour les amis,
il est beau le salon.
Bonjour les amis,
c'est beau.
Absolument.
Je comprends pas quand il parle, mais
il s'est lavé, c'est tout.
Dans moi, Thalys. Ça m'arrive, contrairement à certains.
Comment dire, en Belgique, il a fait sa tête.
J'étais dans le Thalys, c'est Paris un peu en retard. Voilà. Donc alors, les amis, vous allez bien. Alors, pas plus tard qu'il y a 37 heures, j'ai reçu un coup de fil hyper important de quelqu'un que vous connaissez pas pour une raison que je vous révélerai jamais. Voilà, c'est comme ça, j'ai une part d'ombre. Je suis quelqu'un qui a un secret, faut m'accepter comme je suis. Avant ce coup de fil, sur quoi je tombe, Firouz, sur quoi je tombe? Sur une double page de Libération qui dit que de plus en plus de jeunes Français seraient en panne de libido. Quoi, c'est une blague, pas nous, pas la France, pas la France. D'abord on perd l'Algérie, maintenant ça. Alors j'étais le premier, c'est vrai, c'est terrible. J'étais le premier à lire ça. C'est pas pour taper dans le cliché, mais bon, jusqu'à pas longtemps, le petit Français avait quand même une street cred dans le milieu de la chambre à coucher, quoi. Je veux dire, en 65, tu voyais Alain Delon, tu disais, lui, il nique, tu vois, lui, il casse des portes. Hein, franchement, c'est vrai, vous aviez une réputation.
Guillermo, vous aviez une réputation.
C'est vrai, l'Institut des MST, il était pas à Dubrovnik, quand même, hein. Il était chez vous, il était à Carcassonne. Mais là, apparemment, c'est terminé. J'en parlais encore avec Leïla sur le chat du Minitel. Elle me disait, oui, c'est la galère, les petits aujourd'hui sont blasés. Et tout, toi tu rentres d'IGT, t'es un peu le mordant, et les mecs ils préfèrent mater leur div du biathlon, etc. C'est le déclin. Et alors fondamentalement, c'est triste parce que le sexe c'est quand même ce qu'il y a de plus chouette au monde après la burrata, on est d'accord? Non mais c'est vrai! Il y a deux trois pauses qui ont encore un côté ludique, non? Putain, à qui je demande aussi. Mais du coup, Libé s'est inquiété de savoir d'où ça venait, cette perte de désir, d'où ça vient. Alors il y a plusieurs explications. Nagui, naturellement, qui siphonne à lui seul 30% de la testostérone de France et du bassin de la Sambie. Pareil qu'on l'appelle le ninja dans les clubs à plusieurs. Et alors, autre explication. C'est qu'après mes 68 et la contraception, en fait, le côté trop de liberté sexuelle aurait tué le désir, en fait. C'est ce qu'il disait. Donc c'est pour ça que des gens comme Daniel Morin restent concentrés sur tout ce qui est illégal ou au moins réprouvé socialement. T'es chaque fois à deux doigts de la fin de carrière, mais tu gardes encore l'excitation, hein, évidemment. Et puis surtout, et on arrive peut-être enfin dans le cœur de ce billet qui, je trouve, a quand même mis longtemps à décoller. Hein, ça met longtemps. Non, ça chaque fois en plus, plus efficace. Une blague, une pertinence. C'est ça qu'elle attend de toi, Radio France. Mais c'est justement là le problème, les amis. La perte de désir s'explique aussi par cette espèce de culture de la performance qui moi me donne envie de crever dans une fête foraine. C'est ce qui bloque complètement les jeunes Français et aussi les Belges de 35 ans qui chroniquent dans la bande originale une fois par semaine à côté de Leïla pour différentes centaines d'euros. Alors on a la pression tout le temps. C'est vrai, toi tu fais ton petit possible, t'entends alors cet orgasme c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Putain, putain quoi, même dans un lit t'es encore au boulot quoi, putain ça s'arrête jamais quoi finalement. Comment ça t'es fatigué? Tu veux qu'on fasse appel à un ami, c'est ça? Plus fort, je m'en fous, t'as des palpitations, j'ai un défibrillateur, tout va bien dans la cuisine s'il le faut. Alors je veux dire, faut être au top en permanence, au taf, au lit quoi. Vous trouvez pas que le sexe en 2017 il manque de compassion cruellement?
Si. Non,
putain, qui je demande moi aussi? C'est la faute de Jésus. C'est la faute de Jésus, les gars, c'est vrai. Jésus il s'est pas occupé de ça. Il était dans son truc de ouais, mon père ceci, mon père cela. De toute façon, moi je crée une civilisation, le cul c'est un truc de beauf, etc. Et du coup, c'est vrai, du coup personne s'inspire jamais de Jésus dans un lit, c'est vrai. Alors que je suis sûr que Jésus au lit, il aurait été dans la compassion, dans l'acceptation de l'autre quoi. Voilà, t'es sèche, ok, on regarde un documentaire, c'est pas la fin du monde. Non, plus fort Jésus, c'est vrai, plus fort Jésus. Brise-moi une vertèbre, hop, ceci est ma demi-molle, je t'en fais cadeau. Voilà. C'est vrai, voilà. Pour la pénétration, c'est pas l'idéal, mais si t'as le sens du comique situation, tu peux complètement t'en servir comme cornet de téléphone. Voilà, et en plus, non, c'est vrai, et je te le change vraiment, cornet de téléphone, si tu le veux vraiment. Alors, non, je peux faire des trucs miracles comme ça. Alors, dans un lit, c'est vrai, il aurait foutu la pression à personne, Jésus. Il aurait été dans le pardon. Je sais qu'Éric Emmanuel Schmitt, il est très croyant, etc. Mais je suis sûr qu'il est d'accord avec moi. Et s'il l'est pas, c'est pas grave, ça va être une fin de chronique très gênante. Mais peu importe. Face au capitalisme de la turgescence, je réclame le droit à la débandade. Flask is the new dur, putain. Allez, bonne émission, les amis.
Oh, joli.
Sur le bras,
tu devrais arriver plus souvent en retard. Ça te met une espèce de pression supplémentaire intéressante.
J'ai une pensée désolée pour Madame Guise.
Pour calmer les esprits dans cette bande originale, oui. Tout à l'heure nous parlons philosophie et avec Éric Emmanuel Schmitt et avec Laurent Jaffroux, professeur de philo morale à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Mais là maintenant c'est la bande originale d'Éric Emmanuel Schmitt en musique justement. Vous écoutiez dans les années 90. Sûrement du Mozart, mais aussi... Vous réentendez Pauline Esther, vous voyez dans un endroit particulier, dans un cadre précis?
Ouais, moi c'est mes 30 ans, j'ai une petite mansarde dans le 13e, j'écris mes premiers textes, je vis, je m'amuse... Il y a plein d'amour dans ma vie et
elle vous met de bonne humeur, cette chanson.
Ouais. C'est...
Mais ça a l'air, hein, parce que vous êtes tous sourire. Ouais,
oui, oui.
Non, mais je veux dire, vous pensez à une personne en particulier
sensuel,
quand vous l'entendez ?
C'est sensuel, c'est joyeux, c'est insouciant.
Vous pensez à une personne en particulier quand vous entendez cette chanson ?
Oui, oui, tout à fait.
Un groupe de personnes.
Non, mais je pense surtout à une insouciance qui m'a quitté après. Voilà.
Et ça se retrouve, les insouciances, non ?
Ça se travaille après.
Ça se travaille.
Voilà, une fois qu'on a perdu, il faut la retravailler. Mais...
Et c'est à cette époque que vous envoyez votre première pièce.
Ouais.
Et vous l'envoyez pas à n'importe qui.
Edwige Feuillère. La grande comédienne qui avait été une vedette du cinéma des années 30-40, créatrice des grands textes de Claudel, Cocteau, Giraudoux.
Et qui lit.
Je suis tombé à un moment où elle était malade, elle avait le temps de lire. Elle a lu ma première pièce, La nuit de la lune, qui est maintenant au programme du bac, comme quoi on se rend pas compte quand on commence. Et elle m'a pris en main, elle m'a trouvé un agent, elle m'a ouvert la porte des théâtres. Et mon premier théâtre, c'était la Comédie des Champs-Élysées, Avenue Montaigne. Et j'ai été joué par Micheline Prel, Daniel Lebrun, Mathieu Carrière. Et c'est incroyable. En fait, ça ressemble à un conte de fées, parce que normalement, ça n'arrive pas comme ça.
Et justement, le conte de fées, est-ce que vous tentez de le reproduire en tendant la main aussi à des jeunes auteurs qui pourraient venir vers vous en vous proposant de lire ?
Je vais enfin le faire. Parce que je lis depuis plusieurs années. Et là, au mois de janvier, on va créer dans mon théâtre, le Théâtre Rive Gauche, une pièce du fils de Jean Poiret, qui a un talent incroyable. Qui est un talent d'ailleurs où il y a vraiment l'écho du talent de son père. Et c'est une pièce qui ça va s'appeler « Deux mensonges, une vérité ».
En 1994, vous écoutiez celui d'ailleurs qui va avoir droit bientôt à un formidable biopic au cinéma. Freddie Mercury.
Wow.
Vous écoutiez Freddie Mercury ou Queen ?
Tout. Enfin, je veux dire,
parce qu'il y a quand même
c'est lui
des
qui
styles.
Me plaît.
Voilà, c'est difficile, difficile.
Non, c'est lui parce que je trouve qu'il est, à la fois classique et moderne. Il est à la fois viril et féminin. Ouais. Et puis il est à la fois dans l'urgence de vivre.
Rock et baroque aussi et classique dans les arrangements.
Dans l'urgence de vivre et puis le sentiment de la fin, c'est complètement mêlé quoi. C'est la même flamme qui sait qu'elle va s'éteindre.
Vous l'avez vu chanter avec Montserrat Caballé.
Ah oui, c'est magnifique.
C'est une de mes autres passions, ça, Montserrat Caballé.
C'est merveilleux.
Oui, Barcelone.
Qu'est-ce qu'il va interpréter Freddie Mercury, on le sait ou pas ?
Qu'est-ce qu'il va ?
Qui
va interpréter Freddie Mercury ?
Ah oui, on sait, je vais te dire tout de suite.
Ça va être le comédien Borat.
C'est ça.
Sarah Baron Cohen.
Non, mais je vais te le dire. Mais en attendant, dans ces années 94...
Donc 94, en fait, 4 ans après avoir commencé à écrire, en gros, Eric Emmanuel Schmitt, vous récoltez quand même 3 Molières pour votre pièce Le Visiteur, meilleur auteur, révélation théâtre, meilleur spectacle.
Ouais. C'était une soirée à tendinite, parce que 3 Molières, je peux vous dire que c'est lourd. Et c'était extraordinaire, oui, j'ai été reconnu dès le départ.
Et là, vous vous dites, j'arrête d'enseigner, parce que vous étiez maître de conf.
J'étais maître de conf à l'université de Chambéry, j'enseignais la philosophie. Et je me suis dit, bah voilà, le cadeau de la vie. Je commençais déjà à être joué un peu partout dans le monde, parce qu'au fond, en théâtre, ça va très vite quand vous êtes repéré. Et donc, je me suis mis en congé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et la 5e année, j'ai donné ma démission. Le plus grand cadeau de ma vie, ça a été que j'ai pu me consacrer à l'écriture. Dès le départ.
Et comment ça s'est passé pour que votre pièce, comme ça, soit traduite, jouée dans le monde entier ? Est-ce qu'on active des relais ou c'est simplement des auteurs qui s'en emparent ? Comment on est détecté quand on est un jeune auteur ? Ça fait à peine 4 ans que vous êtes sur le marché à ce moment-là.
Vous savez, Paris est en fait très observé. Ouais. Paris est une place théâtrale très observée. Dans les cocoricos, il faut quand même additionner ça. Et donc, par exemple, Donald Sutherland était venu voir Alain Delon et Francis Huster jouer Variation énigmatique. Donc, il l'a créé aux États-Unis. Les plus grands acteurs du monde entier passent par Paris, regardent ce qui se passe à Paris. Et voilà, et après, c'est parti.
Le comédien, pour répondre à la question tout à l'heure, qui va interpréter Freddie Mercury au cinéma dans le biopic, s'appelle Rami Malek. Il est né aux États-Unis. Il a été comédien dans La Nuit au Musée ou dans Twilight.
Mr. Robot, c'est
vrai. Ouais. Et ça va vous faire plaisir, il a un frère jumeau. Si vous avez un truc à écrire. Mais il y a des photos là qui commencent à circuler sur Twitter. Je vais m'amuser.
Il y aura une doubleur alors. C'est pas mal.
Et le biopic est signé Bryan Singer, le film. Voilà, on a tout dit, ou presque. En 96-98, vous écoutiez.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.
Dans la mansarde.
J'étais plus dans la mansarde.
Ah non, pas plus là.
Qui depuis s'en est allé.
Sur la plage abandonnée, c'est le côté Saint-Tropez, c'est la nonchalance, c'est
non, mais dans ces années-là, tout d'un coup,
les robes Vichy, qu'est-ce qui
non, mais dans ces années-là, tout d'un coup, je me mets à être joué par des grandes stars comme
Delon, Huster, Belmondo,
ouais. etc. Et pour moi, j'ai l'impression de crever l'écran quand je les rencontre, parce que je les ai vus comme ça immenses sur les écrans de cinéma. Ils étaient là depuis mon enfance, de même que dans
enfin, crever l'écran, passer de l'autre côté de l'écran,
c'est ça. Oui, dans ce sens-là, parce que c'est vrai que voilà, quand on est né en 1960. Dans le paysage, il y avait la boulangerie et l'église, et puis Delon, Belmondo, de Funès, on allait voir leurs films. Ça faisait partie de la France des années 60. Et tout d'un coup, c'est ces grands.
Ils sont accessibles.
Ces grands-là se mettent à jouer mes pièces. Donc ça me bouleverse. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on entende Brigitte Bardot, qui elle, malheureusement, ne jouera jamais au théâtre. Mais parce que. C'était à la fois ma vie d'adulte et le rapport à mon enfance.
Et à cette même période, vous commencez aussi à faire plein d'autres choses. Déjà, finalement, dès le début, Eric Emmanuel Schmitt, vous vous dites, je ne vais pas me contenter simplement d'écrire des pièces de théâtre. Vous traduisez Les Noces de Figaro de Mozart, en français, bien sûr. Vous montez plein de choses et vous commencez voilà, à vous diversifier, j'ai envie de dire. Est-ce que c'était une pensée, se dire... Il faut que je fasse plein d'autres choses.
Non, c'est, rien n'est décidé, c'est juste du désir. J'ai toujours été comme ça, même enfant. Je faisais plein de choses et puis tout d'un coup, la vie d'adulte m'offre la possibilité de faire plein de choses. Moi, j'ai de l'énergie à revendre.
Il n'y a pas le risque en faisant plein de choses de moins bien les faire que de se concentrer sur une seule chose.
J'ai aucun sens de la carrière, si c'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire une carrière, j'aurais fait tous les ans ou tous les 18 mois la même chose. Comme certains romanciers qui publient tous les 18 mois à peu près le même livre. Et moi, je suis allé.
Par exemple, demain.
Là, moi, je fais, tout d'un coup, je fais un roman, puis après un livre de nouvelles, puis après, je vais écrire un texte sur la musique, puis après je vais faire un film, puis après je vais faire une pièce. Je donne rendez-vous aux gens, mais jamais avec la même chose. Mais c'est tout simplement parce que c'est du désir, c'est ma vie, c'est comme ça, j'ai envie. Puis j'aime pas avoir l'impression de savoir. J'aime bien avoir l'impression de débuter perpétuellement parce que ça fédère mon énergie. Je suis en danger, vous voyez. Vous savez, souvent on s'endort parce qu'on croit qu'on sait.
Il y a bien un moment où vous arrêtez de ne pas réaliser une envie. Vous avez pas.
Qu'est-ce qui vous titille en ce moment que vous n'avez jamais encore approché?
Monter un restaurant avec de la burrata, pour faire plaisir à Guillermo Guiz.
Non, là, j'ai envie de refaire un film, en ce moment.
Ah bah, justement, justement, en 2007, vous écoutiez...
Chiquite madame de la Martinique, dis-moi, je vous en prie, quelle est donc cette musique? Chiquite madame de la Martinique...
Attends, les autres, ça allait, c'est chelou quand même, non?
Non, ça c'était dans son film, ça. Faut expliquer.
Normalement, c'est Joséphine.
Voilà, c'est Joséphine Baker. Et à l'image, c'est Catherine Froh. Parce que dans Odette Tout le Monde, le personnage d'Odette Tout le Monde, qui est joué sublimement par Catherine, chaque fois qu'elle est heureuse, soit elle s'envole, soit elle chante du Joséphine Baker. Parce qu'à l'intérieur, elle est noire, comme elle dit. Et donc, il y a une scène comme ça où ils sont à la mer, au bord de la mer du Nord, et tout d'un coup, en faisant la vaisselle, ça lui vient et ça part, et tout le monde danse.
Là, vous réalisiez le film de votre livre ou vous réalisiez.
Non, c'est l'inverse en fait. J'ai écrit le scénario.
Et c'est devenu un livre.
Ouais, et puis vous savez, tourner c'est long. Enfin, il y a les mois de préparation, mois de tournage, puis la post-production. Et j'ai tout suivi attentivement. Et quand j'étais en montage, j'étais hystérique de pas écrire depuis plusieurs mois. C'est comme et donc sur la table de montage, j'ai commencé à écrire. À côté de mon monteur, j'écrivais des nouvelles. Et puis j'en ai écrit 7. Et puis tout la 8e, je me suis dit bah tiens, si j'écrivais Odette. Et donc j'ai transformé le film en nouvelle.
Mais et si vous réalisiez La Vengeance du Pardon?
J'aimerais bien faire les Sœurs Barbarin.
Ah ouais.
Imaginez avec une même actrice qui jouerait les deux personnages, une Catherine Froh ou une Isabelle.
Non, mais ce sont quatre, ces quatre scripts là que vous avez signés.
Les nouvelles. D'ailleurs, les nouvelles, c'est ce qui gagne le plus à passer adapté au cinéma, alors que souvent un roman perd.
Donc on y va. On le fait.
La première, moi je pense aussi. La première.
On le fait. Allez.
Oh.
Top là.
Ok.
Ça y est. On verra après le prix, hein, mais là pour l'instant, on a...
En tout cas, il est d'accord.
Non, mais il faut le faire. C'est évident, on a envie de les voir, on a envie de les voir jouer, de les voir interpréter, on a envie de...
Mais Nagui, ne me regardez pas comme si j'étais contre le projet.
C'est un suspense... non, réel, un suspense réel. Justement, vous dites que vous avez envie de revenir à la réalisation, parce que vous gardez qu'un souvenir de 2007, de réaliser finalement, de faire votre premier long métrage.
Bah d'abord, j'achète tout un mur de livres sur tout ce qu'on doit lire quand on fait des études de cinéma, parce que je rattrape le temps perdu, l'école de cinéma que j'ai pas fait, parce que je veux pas être avec un assistant technique, je veux vraiment faire mon film. Et après, c'est le bonheur d'être sur un plateau, le bonheur de travailler avec 70 personnes, le bonheur de diriger les acteurs.
Et la troupe, quoi, comme au théâtre, ouais.
Ouais.
Et l'angoisse aussi, non?
Tous les jours, je pensais qu'il y avait un huissier qui allait arriver sur le plateau. Je veux dire, bon, monsieur Schmitt, vous êtes très sympathique, mais on va mettre quelqu'un de professionnel à votre place. Quand j'ai avoué ça à Albert Dupontel et à Catherine Froux à la fin, ils m'ont dit, mais on n'a jamais pensé ça. Moi, tous les jours. J'avais une crise d'illégitimité qui faisait que je travaillais 5 fois plus, pour compenser ce sentiment.
Et vous l'avez quand vous écrivez aussi? Ce sentiment d'être un usurpateur ou pas?
Non. Je travaille beaucoup, même plus qu'avant, parce que, vous savez, je suis petit-fils d'un artisan. Mon grand-père était joaillier sertisseur. Et donc, il passait des heures à ajuster comme ça les pierres dans le chat de la bague, etc. etc. Et j'aime, après avoir fait le geste de l'artiste, c'est-à-dire inventer l'histoire et puis l'avoir écrit d'un jet, j'aime passer des heures à faire l'artisan, à polir, à limer, pour qu'à l'arrivée, ça soit fluide, que ça ait l'air de rien.
Ouais, ça marche.
Qu'on sente pas l'effort.
Ouais, voilà. Extrêmement agréable. La vengeance du pardon chez Albin Michel, signé Éric-Emmanuel Schmitt. Justement, Laurent Jaffreau, merci de venir à notre micro.
Merci.
Je l'ai dit tout à l'heure, professeur de philosophie morale à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez même animé une session sur France Culture. Le pardon est-il une faiblesse? Tout est dans le titre. On peut pas répondre par oui ou par non, j'imagine, à cette question.
Non, on peut pas répondre par oui ou par
non. Sinon, on ferait pas une série, une émission.
Je l'avais suivi, d'ailleurs.
Comment définir le pardon, déjà?
D'abord, c'est une réponse à une faute grave. Il y a plusieurs manières de répondre à une faute. Vous pouvez punir, vous venger, regarder ailleurs aussi, fermer les yeux. Ouais. On confond souvent le pardon avec le fait de fermer les yeux. Mm-hmm. Pardonner, c'est regarder la faute, c'est ouvrir les yeux sur la faute. Et c'est pas n'importe qui peut pardonner à n'importe qui, c'est la victime en quelque sorte, ou un proche, hein, qui pardonne à la personne qui est l'auteur du tort qu'elle a subi personnellement. Donc le pardon, c'est d'abord une mémoire.
En français, il y a toujours cette fameuse correction que l'on a, qu'on présente entre je m'excuse, non, c'est pas à toi de t'excuser, tu dois demander des excuses, se pardonner.
Je te prie de bien vouloir m'excuser. Ouais,
voilà, c'est ça, toutes ces formules-là, ne serait-ce que quand on bouscule ou on est bousculé dans la rue. Il faut être deux quand il y a un pardon, il y a deux personnes qui sont en cause.
Il faut être trois, même, il faut une faute, très grave.
Hein. Et ce pardon n'existe que si les deux le veulent, finalement.
Il faut au moins que la faute soit... Enfin, il faut qu'il y ait une reconnaissance de la faute par l'auteur en particulier. Quelqu'un qui ne vous tient pas, qui ne se sent pas coupable du tout, ne peut pas recevoir un pardon. Mm-hmm. Il estimera le pardon déplacé. C'est une relation, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas pardonner tout à n'importe quelle condition, à n'importe quelle circonstance.
Alors justement, quel est le c'est une histoire. Vous parliez d'amour au début sur le pardon. C'est l'humanité justement que l'on sent en filigrane dans les personnages d'Éric-Emmanuel Schmitt. C'est quelle dose d'amour faut-il avoir? C'est de l'amour de soi déjà, parce qu'on se sent mieux. On le fait pour soi quand on pardonne, comme l'a dit tout à l'heure Éric-Emmanuel Schmitt. On le fait par éducation, on le fait par valeur.
Ça concerne les histoires de deux personnes, de toute façon, au moins celui qui pardonne et le pardonné. Hein. Est-ce que c'est de l'amour? Déjà, pardonner, c'est renoncer à se venger. Et c'est peut-être aussi agir sur son désir de vengeance, sur ses sentiments de colère, de haine, etc.
Donc c'est la maîtrise de soi, c'est ça?
En un sens, enfin, c'est la maîtrise, c'est une technique de maîtrise de soi de quelqu'un qui ne peut pas se maîtriser lui-même, hein, puisque on domine pas sa colère aussi facilement. Donc on enclenche quelque chose qui va peut-être permettre de changer ses sentiments. Mais est-ce que c'est de l'amour? Pas nécessairement. Il y a des versions du pardon, effectivement, qui en font une forme de l'amour. C'est un amour pratique, peut-être, mais c'est pas parce que vous avez pardonné que vous aimez la personne.
Il y a des pardons qui font mal, comme dans le roman.
Il y a un exemple dans une des nouvelles, La vengeance du pardon, qui donne son titre au volume, c'est un pardon punitif.
Qui est la maman qui va voir le serial killer qui a tué sa fille.
Oui, je crois pas que le but du personnage, d'ailleurs, soit de rendre son humanité au criminel, au tueur en série.
C'est un moyen.
Il se sert de ça pour faire autre chose.
Il ne faut pas trop le dire si on ne veut pas déflorer la nouvelle. Merci. C'est pour ça que j'avais présenté ça comme une sorte de voilà, elle veut renouer avec son humanité.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont impardonnables? En l'occurrence, là, on parle de quelqu'un qui tue un enfant. Est-ce que des parents peuvent pardonner l'assassinat d'un enfant?
Alors, généralement, ne pas fermer les yeux, essayer d'oublier une faute, ce qui donne lieu, par exemple, à l'amnistie, hein, au niveau institutionnel, c'est pas répondre à la faute. Donc, il vaut mieux la punir ou la pardonner, je ne sais pas. Mais il y a des fautes, effectivement, qui sont tellement graves qu'on ne peut même pas les regarder. Et dans ce cas-là, on préfère regarder ailleurs, c'est-à-dire les oublier. Il y a aussi des fautes qui ne vous concernent pas vous seulement. Par exemple, c'est le cas typique des crimes de masse. Vous n'êtes pas la seule victime. Vos proches ne sont pas les seules victimes. Parfois même les auteurs sont pas identifiables. Ce sont des groupes. Et donc vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas pardonner.
Sur un crime de guerre, les nazis pouvaient toujours dire, les généraux pouvaient dire, on répondait à des ordres. C'est pas nous qui voulions le faire. Et pourtant, on n'a pas envie de pardonner.
Oui, mais de toute façon, la question est de savoir si un pardon aurait un sens pour eux, en fait. Est-ce qu'ils se fichent pas de...
Parce que le pardon... Oui, parce qu'il y a les conditions du pardon. Mmh. La condition du pardon, c'est d'abord que la victime soit là. En l'occurrence, après les crimes nazis, les victimes étaient mortes.
Il y a des proches, il y avait les proches.
Il y avait les familles, les proches qui...
Oui, mais enfin bon.
On ne pardonne pas par procuration, mais néanmoins, il y a des cas.
Il y a des proches, mais les millions de morts ne pouvaient pas pardonner.
Non, mais ça, pardon, c'est valable pour n'importe quel crime. Le mort sera toujours absent du pardon.
S'il y a mort, oui.
Oui. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas de volonté de pardon, il n'y avait pas de désir de pardon chez beaucoup de criminels nazis, qui, comme des gens comme Joseph Mengele, qui sont morts dans les années 70 en continuant à penser qu'ils avaient fait la meilleure chose du monde.
Vous donnez une indication pour Olivier Guez, pour le prix de l'Académie,
c'est un bon livre.
De l'Académie Goncourt, qui fait partie de la liste.
Ouais. Qui s'appelle La disparition de Joseph Mengele.
Moi, je me demandais s'il y a une différence entre pardonner, est-ce qu'on pardonne un fait, ou on parlait de l'assassinat de son enfant, ou est-ce qu'on pardonne l'individu?
On pardonne à quelqu'un sa faute. C'est une double relation.
C'est ça.
Mais la faute est au centre. Donc si la personne... Vous pouvez avoir pardonné, mais la personne récidive, mm-hmm. le pardon ne vaut plus.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un processus du pardon? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se mettre à la place de l'autre en se disant, j'aurais pu, moi, être celui qui commet la faute, il faut que je le comprenne.
Comprendre sa vie, sa tristesse.
Pas nécessairement, peut-être là,
on va sortir de l'infanticide ou de choses aussi.
Là, vous entrez dans les excuses plus que dans le pardon, en fait.
Mm.
La nuance, c'est que les excuses, pour excuser, il faut essayer de comprendre quel type de causalité est à l'origine du comportement, etc.
Alors que le pardon, il ne faut pas comprendre.
Pas nécessairement. Il faut sans doute comprendre
c'est
un petit peu.
C'est pour ça que j'y arrive pas.
Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Si ça n'a absolument aucun sens pour vous, c'est très difficile de pardonner.
Moi, je trouve que c'est important de ne pas réduire l'autre à une faute. Mm-hmm, de ne pas réduire un humain à un de ses actes. C'est pour ça que moi, je suis un partisan du pardon. Parce que c'est restituer son humanité à quelqu'un en lui disant « tu as fait ça, mais tu n'es pas... » que ça. Et c'est aussi ce que dit au niveau politique, ce que disait Mandela, en disant que le pardon au niveau de la société, comme en Afrique du Sud, ne supprime pas le passé, mais ouvre la porte de l'avenir. C'est vraiment restituer l'humanité à l'autre ou à la société.
Alors lui, c'est la meilleure preuve quand même, avec tout ce qu'il a subi, d'intelligence, de réflexion et sûrement de philosophie, parce qu'il faut... Alors, la philosophie...
Mais le pardon politique, c'est encore autre chose.
Oui, c'est plus proche d'amnistie,
en fait. Mais pardon politique, c'est la...
Excuse-moi, il a été en prison quand même suffisamment de temps...
Merci pour sortir un tout petit peu énervé.
Il était
représentant d'un peuple, d'un espoir, d'un avenir, et ça dépasse sa simple condition d'individu. Mmh. Mandela, c'est pas qu'un individu dans cette histoire.
Je sais pas si nous tous là autour de la table, au bout d'une quarantaine d'années de prison, on serait sortis en disant...
C'est pas un pardon personnel, vous avez raison.
C'est pas un pardon personnel, je crois.
Mais donc il s'est élevé au-dessus...
Aidez-moi Laurent.
Non, mais je vois pas là, ne minimisez pas justement le comportement de l'être humain.
Mais il avait une charge, il avait une responsabilité que toi et moi on n'a pas autour de la table.
Oh, Nagui a des responsabilités.
Oui,
c'est énorme. On ne se rend pas compte comme ça. Là. Il fait le vignole, mais il est super responsable.
Est-ce que pardonner est synonyme d'absence de punition ou est-ce...
Pas nécessairement. D'abord, pardonner, c'est renoncer à se venger. Et on fait une différence entre la vengeance et la punition. La punition, c'est celle de l'institution. Donc on peut très bien cumuler. Les victimes ne sont pas au centre d'institutions judiciaires, donc elles peuvent très bien pardonner, par exemple, un crime, et il y a quand même punition. Mmh. Et la punition elle-même peut être conçue comme un processus de pardon. Non pas un pardon des victimes, mais un pardon, quelque chose qui est interne aux punis. C'est-à-dire, au bout d'un certain moment, le résultat peut être le même. Au bout de la punition, ça c'est la punition idéale, c'est pas celle qu'on connaît dans les prisons aujourd'hui, malheureusement. Le résultat pourrait être la restauration d'une relation.
Celui qui accorde son pardon doit voir son pardon accepté,
Il faut qu'au minimum...
Celui en face le reçoive.
Il faut au moins un accord sur le fait qu'il y a une faute extrêmement grave. Mmh. Si ça, c'est pas présent, il peut pas y avoir de pardon.
D'accord.
Est-ce qu'il faut une pénitence ou je ne sais quoi? Ça, c'est la façon dont on meuble le temps nécessaire qu'il faut, enfin le temps qu'il faut pour qu'il y ait pardon.
Et ça fait du bien de pardonner. On se sent mieux, c'est philosophiquement
oui,
parlant.
Oui, mais n'en faites pas une technique de gestion mentale.
C'est vrai que quelqu'un qu'il mérite de pardonner, non pas d'être pardonné, mais de pardonner. C'est-à-dire en finir avec le négatif, en finir avec la haine, en finir avec le désir de revanche. Parfois, le pardon, on se le doit à soi avant de le donner.
Oui, mais ça peut être douloureux parce que, comme l'a dit Schmitt tout à l'heure, c'est un processus. Il y a une décision de pardonner, mais ensuite il y a un processus qui peut être très long. Et donc on a la mémoire de la faute pendant ce processus de pardon. Et on peut être encore en colère et cependant avoir pardonné.
Mais il y a aussi, quand tout à l'heure, nous parlions du mépris, la phrase de Proust, redis-nous, c'était l'indifférence.
La pire des violences, c'est l'indifférence.
La pire des violences, c'est l'indifférence. Il y a ceux aussi qui ne veulent pas faire ce cadeau du pardon, qui pourrait faire du bien à tout le monde. Est-ce que dans l'échelle de la valeur humaine, le pardon est quand même essentiel dans notre société pour le vivre ensemble, dont on parle énormément, et qu'il faut lui rendre ses lettres de noblesse à ce pardon que l'on oublie de plus en plus.
Oui, mais il ne peut pas y avoir d'obligation de pardonner. Ça, c'est une décision qui appartient à chacun.
Non, mais dans l'éducation, c'est important.
Oui, déjà, la clémence, ça serait pas mal. L'indulgence. Gardons le pardon une arme pour des choses très très sérieuses.
Si vous le voulez, après l'émission, je donne des confessions flash.
N'y allez pas. N'y allez pas.
Ce qui est le plus dur à vivre, c'est... ne jamais pardonner, c'est dur à vivre pour celui qui ne pardonne jamais, celui qui se met dans la situation de tout subir et de jamais pardonner. Le plus malheureux dans l'histoire, c'est celui qui ne pardonne pas.
Oui, mais beaucoup de gens croient qu'ils pardonnent et en fait ne pardonnent jamais. Mmh. Dans une des nouvelles de Schmitt, la première, les sœurs Barbarin, il y a une sœur qui pardonne, mais elle pardonne à sa sœur en disant « Tu es ma sœur, je te pardonne ». En fait, je te pardonne parce que tu es ma sœur. Est-ce que c'est vraiment un pardon ou est-ce que c'est qu'elle ferme les yeux?
C'est un pardon à mauvais escient, je trouve.
Oui, c'est le pardon de but de vengeance.
Il n'est pas certain qu'on pardonne tant que ça, en fait. Et dans on appelle pardon, c'est souvent l'oubli, en fait.
Ouais. Et le pardon est le même dans toutes les cultures
Non, ça c'est un sujet extrêmement intéressant.
Ouvrons ce chapitre.
Ça tombe bien, on a plus que 10 ans.
Il y a des cultures où il n'y a pas de pardon.
Simplement, dans la culture européenne, le pardon est déjà à géométrie variable. Vous avez des distinctions très subtiles entre les excuses, le pardon, l'amnistie, etc. Bon, alors si vous prenez un contexte interculturel, ça devient tout à fait fascinant parce qu'il est même très difficile de traduire le terme pardon dans certaines langues. Expliquer la différence entre pardon et tolérance, indulgence, c'est pas du tout. C'est des distinctions très subtiles en fait.
Nagui.
Je trouve ça passionnant.
Il y a des pays, il y a des cultures où il n'y a pas de pardon du tout.
Ah, j'ai assisté à une conférence à Shanghai de philosophie, conférence sur le pardon, et le public avait beaucoup de mal à comprendre qu'il s'agissait du pardon et pas de la tolérance.
Ah oui.
C'était pas, sur le plan sémantique, c'était pas évident.
Et n'oubliez pas que quand c'est bien fait, la punition peut être une récompense.
Laurent Jaffreau était notre invité pour parler du pardon. Merci Laurent Jaffreau d'avoir pris le temps de venir à ce micro. Merci. À propos du livre d'Éric Emmanuel Schmitt, La vengeance du pardon. Tanguy Pastureau sera là à 12h10. Bonjour Tanguy, vous allez nous parler football.
Et alors que je n'y connais rien. J'ai donc travaillé toute la nuit. Résultat, je suis claqué. Et là, je n'ai plus que 30 mots pour m'exprimer. Donc, comme un joueur de foot. Alors, hier, Mbappé a été présenté à Paris. Alors, c'est le seul type à avoir comme prénom Kylian et à ne pas faire Secret Story. Non, à la place, il a embauché au PSG. Alors, financièrement, c'est mieux que Secret Story. C'est d'ailleurs mieux que tout. Rendez-vous à 12h10.
Merci, Tanguy Pastureau. À tout à l'heure. La cascade de questions. Ah ouais, vous allez vite en besoin. Une cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes. C'est parti et on commence par Leïla.
Vous dormez combien d'heures par nuit, Eric Emmanuel Schmitt?
8 heures.
C'est précis. Daniel Morin.
Eric Emmanuel, est-ce que vous êtes prêt à me pardonner?
Pour l'instant, j'ai rien à vous pardonner.
Non, mais
j'aimerais bien avoir quelque chose à vous pardonner.
Je vais faire le maximum.
Guillermo,
toujours content du quartier?
On est bien.
Mais on est voisins, voilà.
Ah bon, bon, c'est vrai?
Oui, il parle de ce quartier en disant que c'est un quartier tellement chic que quand un chien fait ses besoins par terre, on nettoie pas, on change les pavés.
C'est vrai. Oui, c'est bien.
Albert Algo.
Vous avez un chien?
Trois. J'adore les chiens.
C'est quoi ?
Des Shiba Inu. Vous savez, ces chiens japonais qui ressemblent à des renards.
Et vous ramassez ?
Oui, bien sûr.
Leïla.
Le point commun de toutes les œuvres qui font partie de la sélection de l'Académie Goncourt.
Il n'y a pas de point commun, à part que ce sont des livres réussis. Mais il y a des tas de sortes de genres qui sont représentés, et c'est ça qui m'a plu. Il y a du roman historique, il y a des écrits intimes.
Un chouchou ?
Un chouchou. Des chouchous.
Non, des chichis.
Non, j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit.
Allez,
parce que j'engage l'académie. Si
il était à deux doigts de le dire.
Bah oui, quand vous aimez, vous avez loin, envie de.
Alice Zeniter, L'art de perdre.
C'est très bien, Alice Zeniter, Véronique Olmier aussi, c'est très bien.
Olivier Guez.
Olivier Guez, La disparition de Joseph Mengele.
C'est un bon livre.
Oui, tout est très bien. Ok, on va tout est beau, tout est formidable. À suivre la bande originale avec Eric Emmanuel Schmitt qui est notre invité. Après les infos du midi, il y aura Tanguy Pastureau et Daniel Morin. C'est Thierry Degla. C'est la bande originale avec Léla Kanoboudadi.
Bonjour à tous.
Guillermo Gouin, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Bernard Gou.
Bonjour. Bonjour.
Et notre invité, Eric Emmanuel Schmitt. De l'Académie française.
Goncourt.
Oula, il y a des académies partout. De l'Académie Goncourt.
De l'Académie.
Pas encore d'Académie française. Ça viendra ?
C'est impossible. On choisit.
Vous êtes trop jeune ?
Non. C'est ou bien l'Académie Goncourt, ou bien l'Académie française.
On peut démissionner ?
On peut démissionner.
Et voilà.
Mais j'ai préféré l'Académie Goncourt parce qu'on meurt beaucoup moins à l'Académie Goncourt.
Ils sont immortels.
Et on mange mieux.
Ils sont immortels, mais il y a 2 morts et demie par an. Ça fait 300 ans que ça dure. Et c'est toujours le même chiffre.
C'est vrai, c'est la moyenne.
Ah oui, alors qu'à l'Académie Goncourt, on meurt beaucoup moins.
Deux morts et demie par an, on mange mieux.
Et en Belgique, vous pouvez cumuler ?
Ah, en Belgique, je suis à l'Académie royale de Belgique. J'ai le plus beau fauteuil, le numéro 33, celui de Colette et de Cocteau.
Ça, c'est la classe.
Et tu dis rien, Guillermo.
On accueille cette personne avec plaisir.
On sait accueillir. La vengeance du pardon. 4 nouvelles absolument passionnantes qui seront donc bientôt des fictions que vous pourrez regarder portées à l'écran très rapidement. On a hâte de voir ça. Eric Emmanuel Schmitt, vous signez ces histoires avec ce qui est formidable. Évidemment qu'il y a toujours une histoire de vengeance, de pardon. C'est rempli de rebondissements. C'est extrêmement humain, parce que la nature humaine réserve toujours des surprises dans les comportements des uns et des autres, que ce soit des membres de la famille quand elles sont sœurs jumelles, que ce soit entre père et fils, que ce soit même c'est le cas dans Mademoiselle Butterfly, cette espèce de pari de potes l'été, ouais. Avec t'es pas cap, t'as pas chiche, il y en a une là qui est un peu faux-folle, un peu tête en l'air, elle est mignonne, allez vas-y couche avec elle, mais comme un pari de potes quoi.
Et le personnage William dit oui, et il sait même pas pourquoi il dit oui.
Il a un peu honte de dire oui.
Il a un peu honte de dire oui, mais il y va. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ce garçon est en face de cette fille, Mandine, en fait, il est profondément amoureux.
Ouais.
Mais il va jouer à côté le numéro du cynisme auprès de ses copains. Parce qu'en fait, c'est
quelqu'un... Ouais, pour rester un mec un vrai, quoi.
Pour rester un mec un vrai. Puis parce qu'il ne veut pas se reconnaître dans cet amour-là.
C'est ça.
C'est-à-dire son moi social écrase son moi profond. En fait, il est totalement amoureux de cette fille. Et il le sera toute sa vie.
Justement, toute sa vie jusqu'au bout, avec cette montre à gousset qui va le suivre. On n'avait qu'à lire pour comprendre pourquoi je parle de cette montre. Elle est formidable. Parce que finalement le pardon a lieu à plusieurs moments,
oui.
dans cette nouvelle. Ce n'est pas qu'un pardon, ce n'est pas que il y a un twist à la fin quand même qui est assez incroyable, où même les amis sont totalement hallucinés devant le comportement de cet homme d'affaires, parce qu'on se dit riche banquier qui a caché une escroquerie ou qui essaye de se sortir de l'escroquerie menée par son fils. Et...
Oui, parce que qu'est-ce qu'il lui a transmis à son fils, au fond, ce qu'il avait de pire, c'est-à-dire le goût de l'argent et le goût d'une position sociale.
Oui, mais sans son fils, il n'aurait pas eu la banque.
Mais oui.
Oui, alors que son fils avait tout.
Alors que son fils avait tout initialement. Et tous les deux participaient d'une sorte de mépris, le mépris d'abord de l'homme pour la femme qu'il a aimée, avec qui il a fait cet enfant, et puis chez le fils, le mépris pour sa mère, qui n'est pas présentable, un mépris de classe et un mépris parce que on l'a surnommée Simplette parce que voilà, elle, à la naissance, elle a eu un problème, le cordon ombilical autour du cou, donc vous savez, le cerveau n'a pas été oxygéné.
Comme Jean-Louis Debré. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Il était jumeau, il a le cordon autour du cou. Enfin, c'est un peu de culture, ça vous intéresse pas. J'ai un faire impossible.
Et en face de ces deux êtres qui sont un peu, je dirais, corrompus par le cynisme social et la volonté de réussir, il y a une personne qui est pure, il y a cette femme qui est pure, qui a un amour pur. Elle se donne pour toujours, comme Madame Butterfly, elle attend. Ouais. Elle attend le retour de l'être aimé. Elle ne doute pas qu'il va revenir. Et donc, le contraste entre ce cristal et puis les méandres des autres, c'est ce qui fait cette nouvelle.
Ouais. Il y a une nouvelle de Maupassant qui est très différente de la vôtre, qui s'appelle Berthe, où c'est une simple d'esprit qui tombe amoureuse d'un salopard. Oui, là, votre personnage n'est pas un salopard.
Non, mais bon.
Bien vu, Leïla.
tellement sous-entendu dans ce moment. Non, c'est pas un salopard, ouais, non, mais c'est quand même pas non plus. C'est pas un courageux, quoi.
Non, mais est-ce que Maupassant vous a beaucoup influencé? Parce qu'il y a aussi Pierre et Jean avec une histoire de frères jumeaux et de jumelles.
Ouais, moi, je suis absolument fou de Maupassant. Je lis et je relis Maupassant. Quand je me sens un peu déprimé comme écrivain ou quand je suis fatigué parce que j'ai écrit pendant des heures, j'ai trois auteurs auxquels je recours.
Ah bon?
Je prends Maupassant, je lis une nouvelle de Maupassant et je repars dans l'écriture. Je prends Colette, qui est la reine des nouvelles. Ouais. Et puis je prends aussi Simenon, qui a écrit les meilleures nouvelles de la deuxième moitié.
Alors justement, vous aviez envie qu'il y ait du suspense, qu'il y ait de la littérature, qu'il y ait
J'aime le suspense. J'aime que le lecteur attende quelque chose.
Ça marche.
Voilà,
réussi. Ouais, vous nous avez
fonctionne.
Eu.
On vous est
nous
avec avez vous. Eu. On est avec
Est-ce
vous.
Que quand on publie quatre nouvelles réunies comme ça dans un roman, l'ordre est extrêmement important aussi.
Très, c'est comme de la musique, hein, y a comme une symphonie en quatre mouvements. J'ai en fait écrit le livre dans l'ordre exact où vous le lisez.
D'accord.
C'est-à-dire que chaque nouvelle...
Et alors pourquoi avoir choisi L'Oxymore, la vengeance du pardon, qui est la troisième nouvelle, comme titre des trois pas simplement Le pardon.
Pour indiquer que justement, j'allais essayer d'aller au-delà de l'évidence avec vengeance du pardon, c'est-à-dire explorer vraiment les paradoxes et les ambiguïtés de nos comportements.
C'est passionnant, c'est signé Éric-Emmanuel Schmitt qui est notre invité jusqu'à midi et demi. Il est 12h10, c'est l'heure de...
Okay.
Mais de temps qui passe sur eau, qui tacle, maltraite l'info. J'ai dit qui tacle parce que normalement vous maltraitez l'information, mais là comme on parle football, c'est un tacle. Donc Tanguy, vous allez parler de foot, mais quel foot?
Oui, alors je vais parler de foot alors que je n'y connais rien. Hein. Donc c'est comme
mais
si
comme,
Sébastien,
comme tous les Français. Hein.
Voilà, c'est comme si Sébastien Chabal se mettait à parler d'épilation intégrale ou Élodie Frégé de vente d'albums. Mais j'ai senti que pour vous faire plaisir, Nagui, il n'y avait que deux solutions.
Ouais.
Un, le massage tantrique. Deux, aborder avec vous le sujet du foot, ce jeu dont je sais quand même qu'il se pratique avec les pieds, comme l'autostop quand on est manchot. J'ai donc, malgré le lien charnel qui jour après jour se crée entre nous, choisi de vous parler de foot et de Kylian Mbappé, le seul jeune de 18 ans que je découvre en ce moment puisque je ne suis pas Jean-Luc Lahaye. Alors le papa de Mbappé est d'origine camerounaise, d'où le M devant le nom, hein, c'est typiquement africain, ce qui fait que quand Mathieu Chédid va en Afrique et qu'il dit « moi c'est M », on lui répond « mais M quoi ?» Il répond juste « bah juste M ». Enfin ça fait comme dans le dîner de con, mais avec plus de chaleur. Alors Mbappé œuvrait l'an passé à Monaco, un club calme, puisque quand un but est marqué à domicile, il y a deux types au fond du stade qui murmurent « oui, youpi » avant de s'échanger des valises. Quand un beau jour, Mbappé reçoit un coup de fil de Nasser Al-Khelaïfi, boss du PSG, qui lui dit « Bichon, prépare-toi à te tatouer mon blaze sur la fesse droite, la fesse gauche et même dans l'arrêt, parce que t'es à moi, je t'achète. Hein, » Le gonze à la carte bleue du Qatar. Quand il l'introduit dans l'appareil au restaurant, le truc fume avant de venir s'encastrer dans le plafond. Donc il fait ce qu'il veut. Demain, il peut acheter Anne Hidalgo, la ranger à la cave et rouler sur la piste cyclable de la voie Georges Pompidou à 240 en Lamborghini Veneno Roadster. Alors finalement, a été conclu pour Mbappé un prêt avec option d'achat, ce qui est rare dans le commerce. Hein, impossible au Sexodrome de Pigalle, par exemple, de dire « Bonjour, le canard que j'ai acheté hier ne m'a rien fait, je vous le rends, je vais prendre à la place ce grand signe tuberculé. » Un prêt de 180 millions d'euros, c'est énorme. Hein, si vous allez chez cet élève et que vous demandez la même chose, c'est la mascotte en forme de buisson qui vient en personne vous sortir à coutelade dans le dos.
J'adore. Kylian Mbappé, en tout cas, a vécu une grosse journée hier.
Oui, il a présenté son maillot à la presse. Alors, c'est un truc uniquement de footeux. Hein, jamais, par exemple, Zaya ne présente le string à paillettes qu'elle portera sur sa prochaine photo Instagram. Ou Benoît Boulevard, le camion Ben de Canette de 8-6 qui l'ont aidé sur le tournage d'un film belge un peu glauque. Donc, sur le tournage d'un pléonasme. Il a rencontré les supporters du PSG qui qui l'ont accueilli au cri de Mbappé, allez, 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 ça rime, hein, heureusement qu'il n'y a pas de joueur qui s'appelle Théodule. Et il a fait une conférence de presse, hein, où il est venu en costume noir, chemise blanche, cravate noire. Voilà, quelqu'un a demandé qui a commandé un Uber parce que le chauffeur est là. Mais Nasser El Khelaifi s'est assis à côté de lui. Donc on a réalisé que ce petit gars propre sur lui, une sorte de Bruno Le Maire métis, c'était Mbappé. Alors les journalistes ont voulu parler argent, hein, seulement Al Khelaifi et Mbappé, c'est deux langues de bois, à tel point que s'ils vont au Québec, ils vont se faire débiter par un bûcheron poilu. Exemple, Nasser a dit « L'argent n'est pas important. Hein, dans la bouche d'un Qataris, c'est énorme. C'est comme si un Islandais disait ce qui est primordial dans la vie, c'est le soleil. » Donc là, la presse demande à Mbappé « Kylian, pourquoi avoir quitté Monaco ?» Et il répond « J'étais parti pour rester, mais un événement m'a poussé à m'en aller. » Mystère. Hein, à côté, la Joconde, c'est le sourire du plombier à genoux sous le lavabo. Peut-être le prince Albert a-t-il tenté de lui faire un enfant caché. C'est une coutume de la principauté. Hein, vous vous baladez en regardant la vitrine de chez Vuitton, quand tout à coup, paf, il y a Albert qui vous colle contre l'agence de la HSBC et vous dit à l'oreille, veux-tu le voir mon rocher? Même chez Suchard, ils en font pas des comme ça. Bref, Mbappé a rejoint Paris avec la coulitude d'Alpha Blondie quand il fume un baobab, mais aussi plus d'éléments de langage qu'Edouard Philippe. Hein, quand un journaliste lui dit, mais vous n'avez toujours pas votre permis, il répond, l'air grave, hein. Non, au sujet de mon permis, il y a eu des complications. Alors qu'il suffisait de dire, j'ai totalement foiré mon code, 37 fautes sur 40. Hein, à l'image avec une mémé sur le passage piéton, j'ai répondu, j'accélère. Mais il vaut 180 millions, Nagui, Mbappé. Ouais. Hein. Et pour ce prix-là, on veut pas la vérité, on veut du papier glacé.
Et du but.
Merci. Et du but,
la bande originale, Nagui, sur France Inter.
Ah là là, il est fort, il est bon, il est dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau et on est ravis. On a une belle équipe, je suis ravi de ce... Je dis
mais il nous a coûté du blé aussi.
Moins qu'il n'avait pas 180 millions.
Mais je suis... Voilà, je le dis à tous ceux qui travaillent dans cette bande originale, un énorme merci parce que c'est un bonheur de faire cette quatrième saison avec vous, c'est formidable. Ravi de vous accueillir également.
Dis donc, un bon gentil, aussi, qu'est-ce qui se passe ouais. Et on aime combien aujourd'hui là
non, c'est l'influence d'Éric Emmanuel Schmitt. Hein.
Méfions-nous. On est le 7 septembre. Trop sympa. Était sympa. Je le note, hein, je le note. On va mettre ça sur le site. Avec la photo de la
selfie.
Ah là, un énorme selfie. Okay. Vous rendez compte, le public, vous avez vécu cette bêtise. Pour le dire à tous vos amis.
Éric Emmanuel Schmitt signe la vengeance du pardon avec donc pour vous une inspiration soit dans des faits divers, soit est-ce que vous aviez déjà noté, est-ce que vous avez un, comment vous travaillez d'ailleurs, est-ce que vous avez un cahier? Vous notez sur un petit carnet comme ça des idées en attendant de vous mettre à votre bureau et de les développer?
Non, je note jamais rien. Je prends ce que la vie me donne et je me dis que le cerveau va filtrer. Ce que je vais retenir, c'est ce qui est important. Et puis je vais oublier ce qui est pas important. Et puis après, les histoires, elles se font carrément, elles se font en moi d'une façon quasi passive. Mais alors, ça met longtemps, hein. Et puis un jour, je sais que l'histoire est prête. Je saisis bien ses tenants, ses aboutissants. C'est comme un organisme. C'est organique et je m'assois et j'écris.
Et il y a une musique dans votre écriture, il y a un rythme.
Ouais,
et dans ce rythme-là, justement, vous vous imposez des, comme dans la musique, des breaks, des reprises, ouais, et des accélérations.
Exactement.
Des solos.
Qui dit musique dit discontinuité, ouais, quoi.
Et surprise.
En plus, moi, je viens du théâtre, donc la discontinuité, je connais. Et donc, oui, c'est très important pour moi que ça accélère. Ça ralentit, ça part, ça s'étale, et puis ça se redresse.
Vous relisez à haute voix, comme faisaient certains auteurs, pour savoir
oui,
si...
Oui, bien sûr, je le fais, bien sûr. Oui. Enfin, j'écoute surtout, parce que moi, j'ai mon bureau, je ne l'appelle pas mon gueuloir, je l'appelle mon... comme Flaubert, je l'appelle mon écoutoir. Parce que c'est toujours en haut de la maison, c'est très tranquille, et je suis presque plié sur moi comme une oreille, comme un fœtus. J'essaye d'entendre exactement les bonnes phrases, et puis ce que disent les personnages.
Qu'est-ce qu'il vous faut comme condition pour écrire?
En fait, je peux écrire
un bon contrat.
Non, ah ben non, jamais.
Ah, pardon.
Je signe après.
Ah, c'est bien.
Non,
pas d'avance sur recette.
Non, justement, je préfère avoir des vrais droits d'auteur que des grosses avances, parce que au moins je suis fier. Vous voyez, j'ai rien volé
à personne. C'est le travail qui
paye. C'est pour ça que je suis toujours chez le même éditeur. Regardez les écrivains qui changent d'éditeur, c'est qu'ils ont laissé des ardoises un peu partout chez tous les éditeurs.
Des noms.
Les grands fidèles sont d'abord des grands paresseux qui n'ont pas envie d'aller voir ailleurs. Mais c'est surtout que voilà, non, moi, je suis très fier quand parce que c'est ce que disait Beaumarchais, le droit d'auteur est le seul salaire qui n'est pas contestable. Parce que finalement, c'est un pourcentage du livre.
Mais ne parlons plus d'argent, parlons des conditions posées par
je peux écrire, j'aime bien écrire chez moi tranquille la nuit, campagne, etc. Non, la journée, mais je peux écrire à côté d'un jukebox, je peux écrire en avion, je prends beaucoup d'avions, j'écris beaucoup en avion.
Donc le bruit, l'extérieur ne vous dérange pas?
Rien. Je suis complètement dans mon histoire, rien ne me dérange. Ouais, rien.
Vous pouvez écrire debout?
Oui.
Prouvez-le. C'était sur un pied maintenant.
C'était Victor Hugo donc qui écrivait debout.
Victor Hugo, il écrivait debout, ouais. Tout à fait. Sur un lutrin. Non, rien ne m'empêche d'écrire. Quand je suis habité par une histoire.
Et vous pouvez aussi écrire avec un stylo ou avec une plume,
je pense
ou c'est plutôt ordinateur.
Ouais, les deux.
Non, mais pour se corriger, pour revenir.
C'est bien l'ordinateur maintenant, hein. Mais c'est vrai que moi j'ai pas mal de manuscrits puisque je sais que la Bibliothèque nationale me court après.
C'est vrai, vous les réclamez.
Oui, pour vous les réclamer. Et vous savez ce que m'ont dit mes proches? Garde-les, on les vendra quand tu seras mort.
Oh, classe.
Classe. Pragmatique. Je vais vous leur pardonner.
Bonjour du pardon chez Albin Michel. Voici le rêve de Daniel Morin. Oh, encore un oxymore.
Si les cons n'existaient pas,
je serais pas là.
La vie serait bien fade. Alors parlons de Sacha. Sacha, un ex-candidat de télé-réalité, Sacha de Secret Story 8, Sacha qui est bien placé pour rentrer un jour au Panthéon des Truffes. Alors si ce jeune homme est déprimé suite à l'arrêt du programme, c'était dit, tiens, pour me changer les idées, je vais me refaire le nez. Why not? C'est ce qu'il a fait, une opération mal vécue. Sacha avait beaucoup souffert des suites de l'opération. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait cette année pour se changer les idées? Il s'est fait faire les yeux, le ventre, les fesses et le zizi. Du coup, j'en ai rêvé.
Non. Du zizi?
Non, la chirurgie esthétique. Dans mon rêve, je suis chez moi. On sonne à ma porte, j'ouvre et là, Grishka Bogdanov. Mais avec un tout petit menton. Qui me dit, alors? C'est génial, Grishka. Ouais, je suis super content, hein. Pour être honnête, j'en avais marre d'avoir une canette de coca à la place du menton. Pour enfiler mon pull col roulé, fallait que je mette du lubrifiant, sinon ça coinçait. Pour me raser, ça prenait 50 minutes. Non, là, je me sens hyper bien. Tu devrais penser à la chirurgie, toi aussi, Daniel. En plus, c'est cool, t'as l'embarras du choix. Et il s'en va. Vexé, je vais dans ma salle de bain. Face au miroir, je me scrute. Bon, ok, il y a quelques travaux à effectuer, c'est sûr. Mais c'est pas non plus de Tchernobyl, le lieu est fréquentable, hein, non? Et on ressonne à ma porte. Oh, ça va, Nagui? Super, je sors de la clinique. Oh, mais qui c'est? T'as fait un truc, là? Je sais pas, mais t'as fait un truc. Me tiens, mets-toi contre moi. Nom de Dieu, t'as grandi. T'as vu? Hier, 1m48. Aujourd'hui, 1m95. Mais comment on fait pour grandir autant? J'ai acheté un cheval, je lui ai fait couper les pattes avant, on me les a greffées. Super, mais t'as fait quoi de tes anciennes guiboles? Ce soir, il y a barbecue à la maison. Génial. Bon, je te laisse, je suis attendu à l'hippodrome de Longchamp. Tu joues aux courses? Non, je cours dans la 5e. Salut. La situation devenait de plus en plus étrange. Mais, je n'étais pas au bout de mes surprises. On refrappe à la porte.
Ouvrez, bordel! C'est un ordre!
Ah, bonjour, maréchal. C'est gentil de venir me voir. Vous allez bien?
Je vais hyper bien.
C'est vrai que vous avez l'air en forme. Mais, nom de Dieu, vous marchez? Vous n'êtes plus dans votre fauteuil roulant?
Non, les roulettes, tout ça, terminé.
Ça doit être parce que c'est récent, mais vous vous tenez bizarrement, vous êtes tout raide. En tout cas, quel miracle.
Il n'y a pas de miracle, Morin. Si je marche, c'est parce que la semaine dernière, j'ai subi une petite opération.
Laquelle?
Je me suis fait refaire le cul.
Pardon?
Oui, le cul, le fessier, le dargif, le popotin, le valseur, la boule, le tirelire, le douanier, le pétard.
Oui, ça va, c'est bon, j'ai compris. Mais surtout, pourquoi?
Eh bien, pour une raison fort simple, Morin. Depuis ma terrible mutilation arrière, mutilation atroce, c'était en 54, pour avoir été torturé par les Viettes, j'avais le fessier totalement plat et nécrosé. On aurait dit deux tranches de jambon recouvertes de cornes. Une corne tellement dure que le toubib a cassé dessus trois bistouris. Pour décoller cette corne, il a dû employer une scie sauteuse.
Et comment vous le savez, vous étiez anesthésié quand même.
Négatif, l'anesthésie, c'est pour les lopettes. Grâce à un savant jeu de miroir, j'ai pu suivre pas à pas la métamorphose de mon séant.
Oui, bon, ça consiste en quoi l'opération?
Eh bien, on enlève la corne.
Oui.
Comme sous la corne, ça avait pourri, pour enlever le pus séché, on a pu utiliser une ponceuse. Puis on a cautérisé avec de l'alcool à 90.
Mais du coup, vous devez avoir le derrière encore plus plat, c'est pas très
esthétique. C'est pas fini. Le chirurgien a pris une glacière de laquelle il a sorti un cul tout neuf,
un cul acheté à la morgue de Neuilly et qui appartenait à un danseur de samba brésilien mort d'une crise cardiaque la semaine dernière dans le bois de Boubou.
Je me sens pas bien. Bah, ils vont suivre.
Le toubib a passé les chairs du cul carioca et du mien au papier de verre pour provoquer un saignement. Puis, il a posé le nouveau fessier sanguinolent sur mes plaies béantes à vif. Il a pris son agrafeuse pour réunir le tout et maintenant, j'attends que ça cicatrise définitivement.
Attendez. Agrafeuse, ponceuse, papier de verre, scie sauteuse, ils sont drôlement équipés dans votre clinique.
Pas de clinique ! J'ai pas confiance. Je me suis fait opérer par Maurice, le responsable du rayon plomberie chez Bricorama.
Et ça va, ça tient ?
Pour l'instant, impeccable. J'ai un fessier de compète. Rond, musclé, chaud, confortable. Ça change la vie, vous savez. Il y a juste un petit truc qui... Enfin, non, rien de grave.
Non, mais si, c'est quoi ce petit truc ?
Eh bien, voyez-vous, Morin, un cul de danseur, surtout brésilien, ça ne meurt jamais vraiment à 100%.
Ouais. Mais comment ça ?
Eh bien, c'est l'enfer. Quand je vais quelque part, s'il y a de la musique, il se réveille et se met à danser tout seul la samba.
Il n'y a personne, Rachel ?
À part ça, tout au même.
Sinon, on a dit qu'on, contrairement aux apparences, moi, je vais bien. À demain.
Merci.
Je parle le portugais, enfin le brésilien.
Oui, oui.
T'es fait surtout.
La vengeance du pardon, signé Éric Emmanuel Schmitt de l'Académie Goncourt. Ce roman, vous pouvez vous en délecter maintenant et tout de suite. Mais il y a aussi beaucoup de projets sur lesquels vous êtes. Tout à l'heure, Leïla disait, mais il n'y a pas un moment où il faut choisir. Vous choisissez de faire surtout ce que vous aimez comme confidence. Oui. Une comédie que vous avez adaptée, mise en scène par l'excellent Jean-Luc Moreau, que j'embrasse au passage. Ça se joue au théâtre Rive Gauche avec Marie-Christine Bravo.
Barreau,
pardon.
Bravo, Nagui.
Marie-Christine Barreau.
C'est fait agrandir les jambes, mais pas le cerveau.
Alain Douté. Depuis le premier. À partir de. Non, c'est déjà. Pardon,
oui, ça a commencé la semaine dernière.
C'est
ouais.
Ça.
Elle est magnifique, Marie-Christine Barreau.
Magnifique.
Plus. Extraordinaire comédienne.
Elle est lumineuse.
Ah ouais. Moi, je l'ai vue à Avignon cet été. Oui. Dans la Reine de beauté de Lénane, elle était magique. Elle ose des choses incroyables. Elle arrive sur scène sans maquillage, sans rien. Elle joue un personnage complètement exécrable. Elle est magique.
Il y a Le Chien également, mis en scène par Marie-Françoise et Jean-Claude Broche. Ça, c'est à partir du 29 septembre à votre théâtre, au théâtre Rive Gauche, qui a déjà eu rencontré un succès à Avignon.
Ben oui, c'était. J'ai découvert ce spectacle qui, d'après un de mes textes, une de mes nouvelles justement, Le Chien, c'est à mon avis un des meilleurs textes que moi j'avais écrit, mais je pensais pas que ça pouvait se trouver sur une scène. Et j'ai découvert ce spectacle.
Enfin, pardon, il vous demande l'autorisation avant d'adapter, j'imagine.
J'ai dit oui parce que je les connaissais, que j'avais de l'estime pour eux, mais j'étais persuadé qu'ils allaient se planter. voilà.
Sympa.
Et puis bon, j'ai vu ça à Avignon l'année dernière, c'était superbe, donc je l'ai mis au théâtre Rive Gauche. Et maintenant, on en est à 150 représentations, ça joue deux fois par semaine. Ouais.
Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, dont on avait parlé ici, poursuit sa tournée mise en scène par Anne Bourgeois. La pièce est jouée même dans le monde.
En fait, je vais la jouer un peu partout. Et je l'ai déjà jouée en Italie. Cette année, je vais même la jouer à Los Angeles, à New York. Je vais la jouer au Liban. Ça me fait plaisir. Je vais la jouer au Maroc. Puis je la joue en France.
Et pour retrouver, oui, il y a toute une tournée. On va mettre les dates sur le site de l'émission sur Internet. Vous allez monter également sur scène pour présenter Ma vie avec Mozart. Tout à l'heure, Leïla, vous parlez de l'importance de Mozart dans votre vie.
Oui, je fais ça.
Vous allez raconter.
Le 1er décembre à la Baule avec un orchestre symphonique. Je fais
C'est une création, donc.
Oui, mais j'ai déjà fait, c'est d'après mon livre Ma vie avec Mozart, ouais. Je parle à Mozart et puis il me répond avec sous la forme d'un orchestre symphonique.
Oui, mais ça vous l'avez déjà fait avec un orchestre sur scène ?
Ouais, j'ai déjà fait, ouais.
D'accord, c'était où ?
La première fois, c'était dans ma ville natale, à Lyon.
D'accord, voilà. Très bien. D'autres projets, ça n'arrête pas. Je ne sais pas si on a le temps de parler de tous ces projets. Vous serez présent à la 39e édition du Salon du Livre sur la place de Nancy.
Ce week-end,
l'on aime, ouais, voilà, ce week-end. Vous n'arrêtez pas. Est-ce que vous avez déjà en tête ou sur un ordinateur, quelque part, le début d'un nouveau roman ou en tout cas d'un synopsis, oui ?
En fait, j'ai plusieurs livres dans la tête, mais j'attends que la tumulte de la rentrée soit passée pour savoir lequel je vais faire. C'est toujours comme ça. En fait, moi, j'ai dans la tête, j'ai comme un verger. Il y a des arbres. Et puis, il y en a qui... Voilà, il y a des pruniers, des pommiers, des poiriers. Il y a des nouvelles, il y a des romans, il y a des contes. Et puis, moi, je vais voir ce qui est mûr. Et puis
au moins la cueillette.
En fait, il vous faut un psy un peu jardinier hein, pour aller mieux.
Non, mais ça se fait très naturellement, je dirais. Il y a rien de volontaire.
Là, encore une fois,
en fait.
Le jardinier est important aussi dans le roman d'Éric Emmanuel Schmitt.
J'ai enfin pu parler de mon amour des fleurs et des jardins.
Et puis c'est la première fois que vous participez au prix Goncourt en tant que juré.
Deuxième fois.
L'année dernière, j'ai déjà
participé l'année dernière.
Vous avez déjà voté?
Ah oui, pour Leïla
Slimani. Donc vous savez comment ça se passe, donc vous n'avez pas peur du tout maintenant.
Maintenant, je commence à connaître les rouages et à essayer de imposer les livres que j'aime.
La date du prix Goncourt, la remise?
Je crois que c'est le 6 novembre, 7 novembre.
6, 7 novembre.
À vos côtés, Virginie Despentes. Voilà, il y a tout un tas de...
Bernard Pivot, qui est notre président. François Chandernagor, Tahar Benjelloun. Didier Decoing, Pierre Assouline.
Donc on va bien manger, on va bien boire aussi au restaurant, hein, parce que entre Lyonnais avec Bernard Pivot et vous, j'imagine.
Écoutez, il faut savoir faire trois choses pour être au prix Goncourt. Il faut savoir boire, manger et lire.
Alors, dans cet ordre,
ça va.
C'est moche, il m'en manque un.
Des excuses à présenter.
Désolé pour Pascal Obispo, Vianney, Maître Gims, Matt Pokora, Christophe Maé et bien d'autres qui ont été vexés de ne pas être cités parmi les grands compositeurs aimé par Éric Emmanuel Schmitt. Franchement, je crois que c'est juste par manque de temps. Désolé pour les futurs amours de Guillermo, qui, on l'a compris, vont forcément être déçus par le belge Jacques Plate. En même temps, j'ai deux bonnes nouvelles. Ça prouve qu'il est honnête, au moins, et que moi je suis dispo. Désolé pour Jack Lang, qui depuis 4 ans se bat chaque jour pour venir dans cette émission et qui s'est retrouvé sali, doublé par son cousin. Jack, on attend que toi. C'est Nagui qui veut pas. C'est juste
je suis
ça.
Là.
Et désolé enfin pour les pacifistes qui nous écoutent et qui ont découvert le psychopathe ultra-violent déglingo Éric Emmanuel Schmitt, aka le boucher lyonnais. Et encore, vous n'avez pas vu son regard, ça fait peur.
Merci beaucoup Éric Emmanuel Schmitt.
Merci à vous.
Demain, nous recevrons Mathieu Amalric pour parler de Barbara. Il y aura Roland Romanelli, dont vous avez aussi reçu le spectacle autour de Barbara. Ça sera demain à 11h sur Inter. Pour la bande originale, tout de suite, on est un peu en retard, il est midi et demi, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Philippe,
oui, Nagui, bonjour, bonjour la bande.
Bonjour.
J'ai pas compris le livre d'Éric Emmanuel, c'est une commande du MEDEF?
La vengeance du pardon.
La vengeance du patron.
Ah non, c'est pas ça, je me suis planté.
Non,
du pardon.
Je vous demande pardon.
Je me vengerai.
Oui, c'est ça.
Bonne journée, bonne émission.
À demain, salut les amis.
Salut. Ciao. Salut.